Un tango, une danse, un baiser.
Du bouda, bébé, bébé. Par les temps qui courent.
Ça y est, je suis 21.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Nous sommes si particuliers. Avant même de nous reconnaître une histoire officielle, nous avons déjà nos négationnistes. C'est ainsi que l'on entend maintenant qu'il n'y a jamais eu de lutte pour l'indépendance, qu'elle est arrivée sur un plateau, tranquille, sans même lever le petit doigt. Bientôt, il ne serait pas surprenant d'apprendre qu'Angela Cooper, notre passionnariat, n'a jamais été morte sous les balles en 1943 à Bellevue-Harel et que la déportation d'Emmanuel Anctil à Rodrigue ne serait qu'une excroissance de nos imaginations romantiques. À la vérité, nous sommes tout simplement quelquefois incapables de regarder notre histoire comme une aventure commune. Chacun son île, dans son île. Ce sont des mots extraits de la tribune que publiait il y a pile un an l'écrivain et journaliste mauricien Alain Gordon-Gentil. Votre nouveau roman à vous, Carl de Souza, fait des humains des îles dans l'île, mais évidemment reliés entre eux. L'année des cyclones est publiée aux éditions de l'Olivier. Bonsoir et merci d'être là.
Bonsoir, je suis ravi.
Chacun son île dans l'île, ça vous dit quelque chose? Ça vous parle?
Ça me parle d'autant plus qu'Alain Gordon-Gentil est un de mes voisins vivant sur une ancienne propriété, au moment où il écrivait ceci, la propriété où se déroule mon roman et celle dont il parle, de laquelle il parle, sont dans le nord de l'île. Et Maurice subit, comme le reste du monde, des bouleversements qui font que on a des regards tordus, divergents, changeants sur ce qui a fait notre histoire. Alors, comment est-ce que l'île est devenue indépendante il y a 50 ans? Quelles ont été les luttes? Quelle est la lecture que chacun fait de ces luttes? C'est de l'ordre strictement personnel et c'est tant mieux parce que c'est ce qui fait la chair de nos romans. Nous ne sommes pas des historiens, nous sommes des romanciers, nous sommes des écrivains et ces regards personnels et subjectifs donnent autant d'éclairage sur ce qui a été vécu et on ne peut pas se contenter d'une seule lecture officielle de l'histoire. D'un pays, d'une île, comme d'un pays plus grand qu'est la France.
L'aventure commune dont parle Alain Gordon-Gentil, et justement à la difficulté de la construire, elle peut peut-être passer par l'écriture de fiction.
Elle doit passer par l'écriture de fiction. Elle doit passer par l'écriture de fiction justement à cause de cette subjectivité à laquelle je faisais référence il y a quelques instants. Je crois que les écrivains donnent des regards différents. Nous avons des rôles. Autant nous avons besoin d'historiens et de dates et de précisions et de recherches et de réalité pour ce que ce mot peut vouloir dire, autant nous avons besoin d'autres vérités pour nous nourrir, pour nourrir notre imagination, pour nourrir notre ressenti. Vous parliez d'Angela Coupen qui veut dire pour qui la lutte pour l'émancipation de la population hindoue de Maurice est importante. D'autres personnes viendraient vous dire que ce n'est qu'un incident de parcours à se trouver au milieu de la foule quand on a tiré sur cette foule au moment de la guerre. Tout dépend un peu du poids que nous mettons derrière les mots.
On va revenir sur cette figure et sur cette grève et ces révoltes au milieu de la Deuxième Guerre mondiale avec vous, Carl de Souza. Mais puisque vous parlez de réalité et de précision, à la fin de votre texte, vous notez un lieu et une date, le Mont Piton, 2017. Pourquoi c'était important de donner une géographie d'écriture à votre roman?
Et parce que j'y réside justement, et c'est ce qui a déclenché le roman. Je connais Mont Piton, je connais le Piton, comme je l'appelle dans le roman, depuis longtemps. J'avais un père qui était officier de police et qui était muté de part en part de Maurice. Donc j'ai connu Maurice, Rodrigue et d'autres endroits, des endroits à l'intérieur de ces îles qui font que j'en ai bien fait le tour finalement. Et il y a quelques années, nous avons eu la chance de venir habiter à cet endroit qui était quasi abandonné, c'est une ancienne propriété, et de vivre au milieu de délicieux fantômes. Et qu'est-ce qui déclenche le roman? C'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir, du moins en apparence, avec les champs de canne. C'est la nouvelle qui me parvient alors que je traverse un champ de canne au volant d'une voiture, et qui est l'attentat de Charlie Hebdo. Et ça vous touche, vous, ici. Et cette espèce de signal qui me fait me remettre en question tout ce que nous avons vécu, parce que je lisais à l'époque des revues, des magazines qui venaient de France et où Calvo, par exemple, qui avait travaillé à Charlie Hebdo, écrivait. Tout ça me cause chez moi un retour en arrière et fait que ce qui est particulier, c'est-à-dire d'habiter dans un endroit aussi restreint, aussi isolé que Python, avec ce que nous vivons maintenant dans le monde, prend une espèce de dimension universelle. Autant ça vaut la peine d'aller s'enfoncer dans ce qu'il y a de plus intime. Tous ces romans sont des voyages intérieurs, et ce qui se passe à l'extérieur nous atteint de toute façon. Voilà un peu le déclencheur de ce roman. Curieux, mais c'est comme ça.
Ce roman, il s'ouvre sur des révoltes. J'ai cité tout à l'heure le nom de Bellevue-Harel, date de 1943. C'est un peu comme si on arrivait très directement dans cette foule et dans la confusion de la grève, d'une révolte. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Carl de Souza, de cette date et de cet endroit?
Alors, c'est l'époque de la guerre. Il faut dire d'abord que Maurice était la Seconde Guerre mondiale. Et Maurice était resté un peu en retrait. Il y a eu quelques alertes de sous-marins japonais qui se tournaient dans les environs, mais on est resté quand même loin de ce qui se passait, par exemple, en Malaisie, et un peu plus loin. Alors, de nombreux Mauriciens sont allés combattre dans les déserts nord-africains ou même en Europe. Et nous recevions des nouvelles, du moins nos parents recevaient des nouvelles, à distance, avec un certain décalage. Nous avons toujours vécu cette guerre avec un certain décalage. Mais les Anglais en poste se préparaient à des attaques et voulaient absolument à ce que tout se passe sereinement, tranquillement, dans une colonie en retrait. Et c'était donc la deuxième grève en une décennie, et il fallait absolument la stopper net.
La grève de qui et dans quel endroit?
Alors, la grève à Bellevue-Harel de planteurs ou de métayers hindous pour des conditions de travail, parce que une variété de canne à sucre avait été introduite avec moins de rendement et donc moins de paiement en retour. Et tout ceci était, on vivait déjà en pleine crise économique. Je veux dire, ça nous ressemble aujourd'hui en 2018. Croire que la guerre, c'était un temps différent, ça m'a beaucoup frappé à quel point les choses qui se passaient, les revendications ressemblaient à celles qui existent aujourd'hui et même hier en France avec votre marche que vous avez eue à Place de la Bastille.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cette révolte dont vraiment personne n'a envie, parce qu'on veut que cet endroit de Maurice soit un endroit calme, quasiment de retraite possible pendant la Seconde Guerre mondiale, et que cette révolte des travailleurs, elle va être vite réprimée parce qu'on veut une espèce de retour à l'ordre.
Alors il y aura deux choses. Elle va être vite réprimée. Les nouvelles ne vont pas beaucoup circuler parce que cette population hindoue n'a pas vraiment voix au chapitre à cette époque. Par la suite, des recherches vont montrer à quel point tout ceci avait du sens. Il y avait des informateurs qui se trouvaient parmi les grévistes, qui étaient un peu assis entre deux chaises parce qu'ils étaient à la fois représentants syndicaux et négociateurs pour le compte du gouvernement britannique. Alors, c'est dans ces eaux un peu troubles que se passe cette histoire.
Le personnage qui ouvre votre roman est un personnage qui a justement une position un peu trouble. Et il dit sous votre plume, y compris que par rapport à la Seconde Guerre mondiale, il a comme lui aussi une sorte de position de retrait. Il est à la fois au milieu des conflits et en même temps, quelque chose l'en garde. Pourquoi ? Le personnage de Hans.
Mais nous avons tous été un peu dans cette situation-là. Nous l'avons été à l'époque de l'indépendance de l'île, où l'indépendance, Alain Gordon-Gentil dit dans l'introduction que vous avez fait de cette émission, que c'est à croire qu'il n'y a pas eu de lutte. Il y a eu une lutte, évidemment, mais il y a eu aussi, de la part du régime anglais, une sorte d'abandon de ces terres. Les Anglais ont filé à l'anglaise, pratiquement, on les a peu vus. Et s'il y a un pays au monde où l'anglais est en régression, c'est certainement Maurice. Je parle de l'anglais, langue officielle, des études, des affaires, etc. Nous sommes plurilingues, comme vous savez. Nous avons en commun le créole que tous les Mauriciens parlent. Nous avons le français et qui lui, avec la télé, avec les médias, progresse énormément, et l'anglais qui restait la langue des affaires et des études, et qui reste donc dans une position très artificielle, et qu'il est resté pendant toute l'occupation anglaise. Alors, à cette complexité linguistique, s'ajoute aussi ce qui était contre l'indépendance, donc pour la continuation de la présence anglaise, qui était nombreux, 44%, et ceux qui étaient pour l'indépendance, en grande partie venant de la population hindoue, sont restés un petit peu à se regarder en chien de faïence pendant longtemps. Et il a fallu 50 ans pour que, c'est un véritable miracle, à mon sens, que tout se soit passé plus ou moins correctement, sans de grosses révoltes et de grands conflits. Alors, c'est une situation très complexe, qu'on ne peut résumer en quelques mots, mais que les romans, que les autres écrits, historiques ou pas, nous aident à comprendre. Voilà.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous optez pour une construction très claire en apparence, trois personnages, trois livres dans un seul livre, Karl de Souza. Chacun des personnages, qu'il s'agisse de Hans, de Noémie ou de Kathleen, a son moment à lui dans votre roman. Pourquoi ?
Parce que justement, il y a trois points de vue historiquement différents, il y a trois générations. Il y a trois façons de voir, et il y en aurait bien d'autres, parce que si nous interrogions les jeunes de notre époque, pour qui, par exemple, le patriotisme ou le fait de rester à Maurice ou de défendre la mauricianité ou le mauricianisme, aujourd'hui, les enjeux sont très différents. Ils pourraient vivre en France ou ils vivent en France ou aux États-Unis ou ailleurs, et inversement, les Français et les autres se sentent très, très bien à Maurice. La question de la patrie et de l'île patrie est posée différemment. Je crois que à l'époque où se dénoue ce drame ou cette histoire, ces trois personnages avaient trois points de vue très marqués, trois destinées bien marquées, et ils viennent se retrouver grâce à celle qui vient rechercher ses racines, retrouver ses racines, des racines dont elle n'a pas eu conscience tant qu'elle habitait le Python. Et c'est souvent le cas. C'est souvent le cas de personnes qui reviennent, parce qu'il y a eu de grandes migrations vers l'Australie, vers la France, et des Mauriciens qui viennent rechercher leurs racines, mais qui souvent ne les retrouvent pas comme ils se les imaginaient. Je pense notamment à ceux qui viennent des Chagos, cette histoire qui a été contée par Shenaz Patel, où il y a toute une population chagossienne. Ce sont des îles qui appartenaient à Maurice et qui se trouvent au nord de l'océan Indien, et qui ont été chassés de leurs îles à l'époque de l'indépendance pour qu'on construise une base américaine, celle de Diego Garcia. Aujourd'hui, ils veulent retourner à ces îles et une façon de vivre que leur ont raconté leurs parents, leurs grands-parents. J'imagine mal les jeunes, ces jeunes retrouvant cette vie, ces vies sous les cocotiers, à pêcher toute la journée pour la survie. Alors, il s'est passé un décalage, je ne suis pas du tout sûr que ce soit rattrapable. Tant mieux pour ceux qui écrivent les histoires, tant pis pour dommage, mais c'est un peu dramatique. Ce sont des séparations, ce sont des déchirures qui ne sont pas, à mon avis, très difficilement réparable.
Et d'ailleurs, on y reviendra en évoquant tout à l'heure le personnage de Noémie, mais c'est une sorte de voyage aux origines qui ne peut pas atteindre l'origine, mais parce qu'elle se dérobe en permanence. On va commencer par écouter JMG Leclésio parler du secret.
Les gens des îles ont des secrets, parce que bon, c'est vrai qu'il y a un secret dans ma famille donc, que je ne livrerai pas, que j'approcherai, que j'évoquerai de façon fugitive, mais que je n'expliquerai jamais. Mais il y a un secret aussi pour chacune des personnes qui habitent cette île à Maurice, mais c'est vrai pour d'autres endroits, pour d'autres îles à sucre ou pour d'autres territoires de transhumance, de passage. Je pense par exemple à la communauté indienne de Maurice. C'est quand même étonnant. Bon, on va parler aussi de la communauté africaine qui a connu l'esclavage, mais la communauté indienne, ce sont des gens qui savent que 3 ou 4 générations auparavant, quelqu'un a pris la décision d'embarquer sur un bateau à Calcutta, de faire un voyage très très difficile dans des conditions assez épouvantables, et de débarquer à Maurice pour creuser la terre, pour faire un travail de coulis, de travail de laboureur. Et les gens d'ici, pour la plupart, ne connaissent pas cet ancêtre. Ils savent qu'il existe, mais ils ne peuvent pas mettre un nom. Parfois, ils peuvent mettre une photo et un numéro, parce que les Anglais avaient inventé la fiche policière dans les années 1870. Et le premier usage de la photo, ça a été de coller une photo sur une carte, sur un bout de carton, que chaque coulis indien devait porter dans une boîte en étain autour de son cou, de façon à ce que si on l'arrête, il y ait une identité, on puisse vérifier son numéro, à quel endroit il travaillait et s'il ne s'était pas échappé de l'endroit où il travaillait. Et cette histoire très, très dure, très difficile, chaque personne ici la connaît, mais on ne peut pas mettre un nom. On peut mettre un numéro, parfois une image quand on retrouve la photo, mais pas le nom et pas l'origine. On ne sait pas vraiment de quel point de l'Inde on arrive. Donc cela aussi, c'est un secret. Et alors, évidemment, pour ceux qui sont d'origine africaine ou malgaches, qui ont été très souvent mis à bord de bateaux, transportés jusqu'aux Antilles, et puis ensuite revenus ici dans les Mascareignes, vendus, leur passé est absolument intraçable. On ne peut pas connaître, et on ne peut même pas mettre un numéro, il n'y a rien. Et c'est ça, je crois, qui fait l'étrangeté, la difficulté d'être sur une île comme Maurice, ou sur une île comme la Martinique ou à Trinidad. C'est cette sorte d'absence qu'il y a.
C'est la voix de JMG Leclésio qui fait presque de la géographie de l'île et de son histoire les raisons d'être des secrets. Carl de Souza, votre roman, lui, en charrie de multiples, un en particulier, mais on sent que beaucoup de choses s'organisent autour de la question et autour de l'aveu. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Leclésio? Que c'est presque intrinsèquement contenu dans l'histoire de Maurice qu'il y a des êtres en prise avec les secrets?
Toujours. toujours. Et il y en a dans l'histoire de Maurice en général. Il y en a dans ma famille, des deux côtés, du côté de mon père comme du côté de ma mère. Il y en a chez chacun d'entre nous.
Est-ce que ce n'est pas toutes les familles?
C'est toutes les familles, probablement. C'est toutes les familles. Je vous parle de celles que je connais très bien et même de celles de d'oncles qui m'ont davantage inspiré le livre que l'histoire de mon père. Mais en même temps, j'aimerais dire que ce secret plus particulièrement ce mystère qui fait que nous avons, il y a un certain flou au niveau de nos racines, nous permet aussi de rebondir, de reconstruire et de s'inventer pratiquement des histoires ou des fictions. J'entendais quelqu'un dire hier à Saint-Malo on n'a pas le droit de voler la fiction de l'autre. Et je crois que chacun peut s'inventer une histoire et ou se reconstruire une histoire. Et je suis très heureux de vivre dans cette île aujourd'hui où il y a des histoires qui peuvent... Bien entendu, je suis obsédé par l'histoire de l'esclavage, beaucoup plus que par l'histoire des coulis indiens. L'esclavage, pour moi, me semble une injure à l'humanité qu'on digère mal, qu'on devrait... Et malheureusement, ça continue avec la main-d'œuvre engagée ailleurs. Je crois que derrière tout ce secret, il y a aussi apprendre certaines choses. Il y a apprendre ce créole qui a émergé, cette langue créole qui maintenant nous unit. Il y a apprendre aussi une espèce de richesse qui a fait que... Alors, tout dépend un peu de votre état d'esprit. Je suis un éternel optimiste. J'ai tort probablement de l'être, malgré les drames que j'écris en général. Je crois qu'il est possible, à partir de secrets ou de blessures, de se faire une autre histoire et de constamment s'inventer un présent qui vaut la peine de vivre. Voilà.
D'ailleurs, est-ce que vous diriez que ce secret ou cette tension autour du mystère, c'est votre mécanique de fiction? C'est ça qui fait que finalement vous êtes au travail et vous écrivez et vous tendez vers quelque chose?
Toujours, je pense. Je pense que l'île nous offre cela. Je ne sais pas quelle est la réalité de personnes écrivant dans un autre milieu, mais je sais que pour Maurice, c'est du pain béni. Vous avez toujours des histoires, des personnes que vous rencontrez. Chaque personne est porteuse d'histoire, d'un roman. Et je crois que c'est une façon de voir. Tout dépend de la façon de voir et d'entendre ce qu'ont à nous dire nos interlocuteurs. Je trouve que c'est... On se pose la question de la poésie. Qu'est-ce que c'est que la poésie? Qu'est-ce que c'est le roman ou la prose? Je crois que tout ceci fait partie de notre... humanité, et à entendre Le Clésio ou Gordon Gentil parler, je crois qu'il y a une façon de relire l'histoire qui ne guérit pas, qui n'apaise pas, mais qui nous fait vivre un peu mieux par la suite.
Tout à l'heure, vous parliez des endroits, des champs de canne, celui que vous traversiez quand vous avez reçu la nouvelle des attentats à Charlie Hebdo, mais aussi des anciennes propriétés où vit Gordon Gentil, où vous vivez vous, où vous avez écrit, qui nous rappellent combien les lieux sont porteurs de cette histoire-là, oui. Et donc sont aussi des invitations à la relire, à la retraverser ou être retraversée par elle. Je trouve que dans ce roman « L'année des cyclones », le lieu porteur de tout ça, c'est une maison, la maison des Roselles, cette propriété. Est-ce que vous diriez que c'est une sorte de personnage à part entière ou même une force à l'œuvre dans ce roman?
Oui, je suis assez fasciné par les maisons. D'ailleurs, beaucoup plus dans mon deuxième roman, qui était La maison qui marchait vers le large, qui a été mise en scène et jouée à Paris, et qui était un véritable personnage du roman. Dans le cas de L'année des cyclones, c'est davantage... Je ne pense pas que la maison ait autant d'importance que la famille, ce qui noue tous ces personnages autour de cette bâtisse à l'ancienne qui a été détruite il y a une trentaine d'années à peu près. D'ailleurs, le lieu, le camp des laboureurs, les quelques maisons qui existaient dans cet endroit ont disparu maintenant. C'est donc vraiment dans les écrits, dans les histoires et dans certaines photos. Il y a une photographie d'un dernier déjeuner, dont je parle d'ailleurs dans le roman, où tout le monde est un peu agglutiné autour du père et de la mère. Et il y a cette dernière photo qui m'a beaucoup touché parce que à voir la photo et la maison en arrière-plan, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est là, qui est très noué et qui est évidemment de l'ordre du secret dont parle le Clésio. Oui, voilà un peu le rôle de cette maison.
À mon tour, je me suis mise à chercher l'échelle de secours, celle de Kathleen et de son ADN escamoté, Kathleen qui avait essayé de m'en détourner. Étais-je le fruit d'une quelconque considération, faute d'amour ? Ce mot avait-il du sens pour cet homme dont le regard se perdait par la fenêtre et restait accroché à quelque chose de sombre ? Oui, j'aurais souhaité découvrir que j'étais l'enfant d'un amour, non pas d'une passion, comme l'enfant mis au monde par Lorraine, mais d'une toccade de jeunesse. Le fruit d'un flirt un soir de fête, de quelques secondes pendant lesquelles deux êtres s'étaient donnés au point de tout perdre sauf eux-mêmes, de tout oublier, l'avenir, les responsabilités, les autres et leurs regards. Que veux-tu savoir ? Il avait décidé de me tenir tête et sa question abrupte me laissait sans réponse, perdue parmi mes désirs d'actes d'amour. Sa question était injuste et détestable. Elle m'avait tout l'air d'être une vengeance. Que doit-on savoir de son passé ? J'ignorais totalement. Ces mots n'avaient pas de sens. Dans ce genre de quête, sait-on seulement ce que l'on cherche ? De ses yeux clairs et déterminés, il m'épinglait, moi et mes questions que je n'arrivais pas à formuler, qui bourdonnaient en moi, butant les unes contre les autres. Mon père m'avait, dans un égal désarroi, rejointe dans mon expectative stérile. S'il ne m'indiquait aucune piste à explorer, je me sentais soudain moins abandonnée. J'ai proposé à Hans de commencer par le début. Par Maxime et Cécile, peut-être, dont il occupait aujourd'hui la chambre. Qui était-il ? Comment s'était-il rencontré ? Que savait-il d'eux ? Mais il a choisi son propre itinéraire.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Carl de Souza, on entend ici dans la voix d'Oriane Delacroix un extrait de votre roman « L'année des cyclones ». On est dans le deuxième moment de ce livre avec Noémie, dans la voix de Noémie. Noémie face à des questions, pas exactement sans réponse, mais presque, qui se demandent même ce qu'elle cherche. Si vous, romancier, étiez en mesure de dire quelle est la quête de Noémie, vous diriez quoi ?
J'aurais été bien incapable de lui dire ce qu'elle cherche. C'est ça le problème. Quand on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche et qu'on s'imagine des choses, franchement, je ne suis pas du tout sûr qu'elle-même savait ce qu'elle cherchait au moment où elle décidait de revenir. Et je crois qu'elle se cherchait elle, et je crois que c'est en fait à l'intérieur d'elle-même qu'elle a trouvé ses réponses, davantage que dans les entrevues, les conversations, les informations lettres. Qu'elle aurait pu recevoir par la suite. Je crois qu'il fallait tout simplement revenir à l'endroit pour être en proie à toutes les sensations possibles qui lui avaient échappé tant qu'elle y vivait enfant, pratiquement dans une atmosphère un peu ouatée, protégée par cette mère, surprotégée par cette mère qui elle-même ne se sentait pas à l'aise dans cette propriété, qui l'a vite extraite pour l'amener à une autre ville, Curpip, beaucoup plus loin. Alors, je crois qu'il lui fallait tout simplement s'immerger dans cet endroit pour savoir un peu ce qu'elle cherchait.
Ce sont vraiment des histoires de retour, à la fois chacun des personnages ou chacune fait une sorte de retour en arrière sur des moments d'enfance ou sur des adolescences ou de jeunes adultes, et puis aussi des retours dans un endroit. Vous disiez tout à l'heure, Carl de Souza, qu'il y a toute une partie de la population qui, après avoir quitté Maurice, y revient. Et dans la voix de Noémie, vous dites toute l'incompréhension d'être de retour et parfois de ne pas être compris par ceux qui sont restés. Est-ce que c'est quelque chose que vous-même avez traversé ?
Oui, j'ai compris ce genre de difficulté en allant rejoindre en Australie ceux qui étaient partis à l'époque de l'indépendance, parce qu'ils se sentaient menacés, parce qu'ils n'avaient pas eu de travail, parce qu'ils allaient dans un pays comme ça, à l'aveuglette, en se demandant ce qui les attendait. J'ai rencontré des cousins qui sont allés en Australie et qui sont restés sur une image de Maurice des années 60 qui est complètement figée. Je ne sais pas, ils chantaient le ciel, le soleil et la mer, ils chantaient ils ignoraient totalement ce qu'avait fait Gainsbourg, par exemple, et ils ignoraient totalement nos relations qui avaient entre-temps changé à Maurice, surtout. Notre rapport avec la population, avec les autres de souches différentes, les rapports entre les différentes composantes de la population ont beaucoup évolué pendant ces années, pendant ces 50 ans.
Dans quel sens ?
Dans le sens... Le premier effet a été celui de l'éducation. L'éducation en commun, dans le sens que se côtoyant dans les métiers, sur les bancs des écoles, etc., ils ont grandi ensemble, ils ont appris à se connaître. Donc nous avons des rapports entre différentes parties de la population qui sont, à mon avis, nettement plus facile maintenant qu'il ne l'était à l'époque, dans les années 60, en 1968, lors de l'indépendance. Donc nous avons vécu ces rapports différemment. Nous avons vécu des rapports à la langue, à la langue créole, au français, etc., que ceux qui sont partis n'ont pas connus. Et donc ils reviennent dans un pays, souvent, qui a entre-temps beaucoup évolué.
Avec un idéal qui sonne faux.
Je ne sais pas. Nous avons tendance à nous observer, à nous juger les uns les autres, ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Et aujourd'hui, je regarde cela avec beaucoup plus d'humilité. Je me dis, si j'étais à la place de quelqu'un qui n'avait pas de boulot en 1968 et qui, je ne sais pas ce qu'il a vécu. Ils ont débarqué en Australie ou ils ont débarqué en France avec pratiquement rien en poche. Ils ont enduré des choses que je n'ai pas connues. Donc nous avons des histoires qui sont partis, il faut chercher ses racines, mais il faut aussi savoir comment l'arbre a grandi lui-même et qu'aujourd'hui, dans cette diaspora mauricienne, les gens ont conservé en mémoire des fictions, comme je vous disais, des histoires, et que c'est intéressant de savoir comment ces histoires se ressemblent. Ce sont finalement des aventures humaines tout à fait intéressantes.
Le personnage de Noémie, vraiment, est décrit comme un personnage qui essaye d'entamer un dialogue avec son père, de poser des questions, d'exister dans la nasse génétique qu'est pour elle la famille des Roselles, c'est-à-dire peut-être entreprendre ce que vous décriviez tout à l'heure, Carl de Souza, l'invention de soi-même par la connaissance de ce qu'on imagine être ses origines. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une partie de la quête de Noémie, c'est ça ? Avoir la possibilité de vivre sa propre vie ?
Oui, essentiellement. Essentiellement, oui. Vous m'apprenez des choses là, parce que c'est toujours, on écrit des choses très instinctivement, en disant, en parlant pour un personnage. Et effectivement, j'ai dans mon environnement proche des personnes qui cherchent leur identité et qui essayent de se reconstruire et d'exister et qui ont besoin de ces éléments, familiaux
et les récits de cette fonction.
Des récits qu'on leur fait et qui sont très attentifs aux récits, beaucoup plus que moi, dans le sens que j'entends des choses, des histoires de famille, j'entends des noms, j'entends prononcer des noms de lieux, et ça fait partie, je suis beaucoup plus détendu par rapport à ça. Ou du moins, j'ai l'air de l'être.
Pourquoi vous êtes plus détendu que quoi ? Qu'une autre génération,
par exemple ? Que la nouvelle génération, je pense. Je pense que j'ai eu la chance de vivre cette période après-guerre, qui a été plutôt paisible. 50 ans d'indépendance sans grosse fracture, sauf peut-être celle de Kaya il y a une vingtaine d'années. C'est quand
peut-être
même pas mal.
On revient juste là-dessus, 1999, c'est la mort.
La mort du chanteur Kaya alors qu'il est en prison, oui, et qui cause un soulèvement de la population créole, comme nous l'appelons, qui est en fait afro-créole et qui sent justement que, qui ressent l'injustice profondément.
Et ça, vous pensez que par exemple, ça a vraiment été une rupture pour votre génération et peut-être pour la génération suivante dans une forme de calme ou de stabilité qui existait à Maurice ?
Pour moi, c'est un réveil. Pour moi, c'est un réveil. Et jusqu'à l'heure, quand moi j'ai écrit Les Jours Kaya à l'époque, et qui, c'est un livre qui n'a pas été très compris, parce qu'on s'attendait à ce que je fasse une sorte de biographie du chanteur Kaya, qui mérite certainement qu'on fasse une biographie de... moi je voulais raconter un peu l'incompréhension du peuple mauricien devant ce soulèvement qu'on ne s'expliquait pas. Pourquoi détruit-on ? Pourquoi brûle-t-on les autobus ? Pourquoi saccage-t-on les magasins ? Pourquoi ? Dans cette espèce de révolte, parce que c'est une véritable révolte et non pas une révolution orchestrée, personne ne s'attendait à ce que cela se passe, on prend conscience soudain qu'il y a une population afro-créole qui existe et qui n'a pas voix au chapitre. Voix dans les deux sens, parce que ce chanteur disait des choses qui ont inspiré par la suite. Il a composé des choses. Simé la lumière, chemin de lumière, qui a inspiré bien des personnes par la suite. Alors, nous sommes dans l'interrogation, une interrogation personnelle, une quête personnelle, toujours, nous tous, mais la génération actuelle, je crois, a besoin de repères quelquefois et est à la recherche de traces et que nous devons leur offrir afin que eux aussi s'y retrouvent et s'écrivent leur propre histoire.
Et c'est cette génération-là qu'incarne Noémie dans ce personnage qui est inquiet, qui est très vivant, mais qui est inquiet. Et c'est elle qui dit aussi que finalement les livres ont été ses parents, qu'elle a trouvé dans la lecture et dans la littérature. Elle qui veut inventer, peut-être s'inventer elle-même, elle a trouvé dans la littérature une possibilité d'être peut-être pas guidée, mais presque aimée. Est-ce que vous diriez cela ?
Je dirais cela de nombreuses personnes que je connais qui sont accro, sans problème, aux livres, dans le sens que ce sont des vérités, ce sont des histoires, ils ont de véritables relations avec les auteurs, avec les histoires, avec les lieux. Oui, Noémie est certainement un exemple de ce genre de personnes, mais il y en a plus d'un.
Ça dit un rapport peut-être un petit peu plus tard, il est aussi question du piano. Vous décrivez dans cette famille Rosel une omniprésence de l'art.
Une omniprésence de l'art, du piano en particulier. Le piano qui est passé de génération en génération et qui aujourd'hui se trouve dans mon salon, chez moi.
Ah ouais.
Ah oui, alors c'est un objet, oui, c'est
de culte. On parlait des lieux tout à l'heure, en fait c'est le piano plus que la maison.
C'est le piano plus que la maison, dans ce cas, certainement. La musique plus, et c'est étrange, mais bon nombre d'entre nous, d'entre les cousins, nous sommes remis au piano. Curieusement, bien des années après, comme quoi cet art, la musique, est resté dans nos têtes et s'est transmise de génération en génération sans qu'on se l'explicite. Oui, le piano certainement. What's missing is what's missing is what's missing is some kind of pillow some loving willow some care once denied now dis-
dissolved inside. What's plenty is what's plenty is what's plenty is one God. Six times five breaths, four lungs,
finit avec la famille. Une partie de moi résiste à cette idée. Il y a tellement de conflits dans la famille, surtout entre les générations. Tu rends fou tes parents et ils te rendent fou en retour. Et soudain, ils sont morts et tu es comme assommé. Tu es fou quand ils sont en vie et tu es fou quand ils sont morts. Et tu grandis et tu fais la même chose avec tes enfants. Alors que je suis là en train de parler face à la caméra, mon esprit divague. Et je commence à penser que je prends le mauvais chemin. Évidemment, ma famille et moi, nous sommes différents. Mais ça ne nous empêche pas de nous aimer. C'est bien ça le problème. On s'attache à sa famille et il commence à mourir. La peine continue de génération en génération. Mais je ne peux pas m'asseoir et parler de ça, c'est trop déprimant. Je ne sais pas, on dirait qu'une fois qu'on est pris dans le vortex de la famille, on n'en sort que par la mort. J'aimerais bien que ce soit la batterie de la caméra qui meurt. Là, je veux dire, tu veux pas t'élever un peu, parler de l'âme ? Peut-être qu'il y a une vie après la mort.
Il y a une vie pour les pianos, en tout cas, après la mort. C'est la voix du réalisateur Ross McElwee au micro d'Aurélie Charron en 2015 sur France Culture. Il dit finalement, on est fou d'avoir des parents vivants, et puis ensuite on est fou de chagrin d'avoir des parents morts. Et il parle du vortex de la famille. Karl de Souza, dans l'année des cyclones, c'est pas le vortex, mais c'est les cyclones, c'est pas très loin en termes de force incroyable.
Le cyclone
de la famille, presque.
Dans sa géométrie, avec des vents qui tournent et le centre qui est absolument calme. Ce centre, cet œil de cyclone que j'ai connu, pour au moins les deux cyclones de l'année dont on parle, qui est 1960, où nous avons joué au foot, alors que le cyclone était autour de nous, on était gamins, il y avait un beau soleil, tout était ravagé autour et les gamins, eux, ils s'en moquaient royalement, ils jouaient au foot là. Les parents étaient désespérés et par la suite, le cyclone est revenu. Alors, le cyclone, certainement, dans sa construction, ilienne, nous vivons dans une île et contrairement au continent, au grand pays où il est possible d'avoir de grands flux migratoires, il nous faut tourner en rond et nous regarder et nous accepter. On peut voir ça de façon un peu négative, mais on peut voir ça, on peut positiver et se dire que c'est intéressant. Il y a des forces qui agissent et qui, d'élection en élection, produisent de nombreux cyclones. Mais entre-temps, il y a des liens qui se nouent. Le cyclone, pour moi, représente bien des choses. Et bon, nous n'en avons pas eu, heureusement, depuis une vingtaine d'années, ce qui est curieux. Les changements climatiques sont probablement liés à ça. Mais le cyclone lui-même fait partie de notre réalité mauricienne, avec toute une espèce de cérémonial où il y a des avertissements successifs. Et pour les gamins, c'est super, parce qu'aux avertissements, il n'y a plus d'école. Donc, c'est la fête, c'est la joie. Donc, il y a plusieurs manières de voir le cyclone. Et après le passage du cyclone, on s'invente aussi toutes sortes de mythes. Après le passage d'un des cyclones, je me souviens, il y a une trentaine d'années, on avait vu apparaître des êtres étranges dans les villages, et on s'en méfiait, et les gens s'armaient pour essayer de se débarrasser de, entre guillemets, démons qui seraient restés sur place.
C'était qui ?
Alors, on parlait, il y a une histoire de quelqu'un qui apparaîtrait tout nu à minuit, qu'on appelait Tuni Minuit à l'époque. Et ceci donnait des frayeurs qu'on essayait de cristalliser, de concentrer autour d'un personnage inventé. Voilà. Donc le cyclone fait partie effectivement de notre imaginaire et de notre réalité aussi.
Et oui. C'est presque une métaphore de ce que relevait ce réalisateur Ross McElwee, à savoir le vortex familial. On utilise des formes, des forces géométriques assez similaires. Quand vous dites le cœur du cyclone, c'est des gamins qui jouent tranquillement au soleil pendant que les parents et les grands-parents peut-être se désespèrent du désastre. Mmh. C'est aussi ce que vous racontez, c'est qu'il y a une forme de flou innocent sang de l'enfance, Carl de Souza, dans votre saga familiale de l'année des cyclones, qui disparaît au fur et à mesure que l'on vieillit et que l'on s'éloigne presque de l'œil calme du cyclone.
Oui, oui, oui. Quand le cyclone, je ne sais pas si nous nous éloignons de l'œil calme ou si c'est le cyclone qui nous balaie et qui finit par un moment donné. Bon, quand on s'attrape la queue du cyclone, qui est certainement plus violente en général que l'avant, nous subissons des choses en fin de vie, nous réalisons des choses, nous vivons des choses autrement. Nous avons un autre, comme je disais au départ, un autre regard sur ce qui s'est passé. Et je crois que le passage d'un cyclone, les phases d'un cyclone sont comparables, sont certainement dans la métaphore de ce que nous vivons en général au cours de nos vies.
Ce qu'interroge l'année des cyclones, votre roman, c'est ce qui passe précisément de génération en génération. On a parlé tout à l'heure des secrets. On parlait de choses plus heureuses ou plus joyeuses, d'un rapport à l'art, mais aussi peut-être des blessures, de rapport au monde et à la violence. Il semble que de votre poste de romancier, vous êtes en mesure, Carl de Souza, de regarder ce qui presque des points de retrouvailles à des époques très différentes, entre des êtres très différents, de choses qui se transmettent en silence.
Je crois qu'ils se transmettent ou aussi qu'ils se vivent de la même façon à différentes époques. Et je crois que l'humanité finalement fait face aux mêmes problématiques, peu importe l'époque. Alors, il y a d'abord la transmission de choses dont on ne sait pas si c'est fait par la génétique, comme je le disais à propos de cette double hélice qu'évoquait la lecture de tout à l'heure, mais aussi à travers des histoires qu'on se raconte et des non-dits, des attitudes qui transmettent des choses secrètes ou pas constituent ce que nous sommes. Je crois que nous sommes certainement le produit d'une histoire, dure ou pas, mais que en même temps, nous ne sommes pas que ça. Nous sommes aussi nourris par ce que nous vivons chaque jour. Nous sommes aussi nourris par nos rêves, par l'avenir, et par nos espoirs, par cet élan, par cette énergie qui est en nous.
Par l'amour, la passion, les rencontres, c'est aussi un roman qui dit, tout à l'heure on entendait dans la voix d'Oriane Delacroix, Noémie dire « mais je suis née de quoi ? Est-ce que je suis née de quelle histoire d'amour ? De quel acte d'amour ?» Elle occupe quoi comme place cette question de l'acte d'amour, la place de l'amour, la passion amoureuse, quelque chose qui nous attrape?
La passion amoureuse, certes, je crois que c'est très important et je crois que c'est vécu et malheureusement c'est très dévalué au cours de la vie. On oublie très vite les moments et c'est quelque chose qui est très passager finalement, qu'on compte en semaine ces jours-ci. Et alors que je pourrais prendre ceci de façon plus large. L'amour certainement entre un homme et une femme, mais aussi l'amour, l'empathie, les rencontres, l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres, un parent pour un enfant, et tout ce qui est là et qui est précieux et qu'il faut absolument protéger le plus possible.
D'ailleurs, le dernier livre, le livre de Kathleen, s'ouvre comme ça. Qui de Noémie ou moi est la femme échouée? Quel courant m'ont porté? Quelle marée m'a rejetée ici? C'est à se demander. Le sentiment que j'éprouve immédiatement, lors de l'atterrissage, c'est bien celui d'avoir traversé un océan. Non pas l'océan Indien, mais une mer d'incompréhension qui m'a rendue étrangère à moi-même, à ce pays d'où je suis partie il y a 25 ans, sans la moindre nostalgie, n'ayant jamais formulé le projet d'y revenir, comme certains, une fois ma situation établie en Australie. Je me recentre immédiatement sur le but de mon voyage. Elle, Noémie, rien d'autre, aucun souvenir qui me hante, aucune racine à retrouver. Ma fille est mon bien le plus précieux, le seul en réalité, je n'en ai jamais possédé d'autre. C'est le début du chapitre de Kathleen. Ma fille est mon bien le plus précieux, je n'en ai jamais possédé d'autre. Vous disiez tout à l'heure, Carl de Souza, que la question de l'amour était vraiment posée aussi dans l'amour filial. Il me semble que c'est vraiment ce qui trace un trait presque plus fort que la passion amoureuse entre tous les personnages.
Je crois aussi que ça se vit, je ne fais que transmettre ce que je ressens, de ce que je vois vivre autour de moi. La passion amoureuse, certainement, mais aussi la passion filiale ou parentale ou les relations qui peuvent s'établir et qui ne sont pas évidentes parce que quand elle retrouve sa fille, ce n'est pas nécessairement celle qu'elle s'était imaginée. Mais ce sont des moments d'amour et ce sont des moments d'amour à préserver absolument et à pouvoir... Oui, ce sont des pierres précieuses dans notre vie et les ranger comme n'importe quoi d'autre serait à mon avis une erreur. Ce sont des moments qui rendent notre vie, qui illuminent notre vie, qui ne durent pas. Soyons très réalistes.
La vie ou les moments lumineux?
Les deux. Les deux. Pas mal. Les deux. Je crois aussi que la vie peut être éclairée par ces moments lumineux qui sont fluctuants. Fluctuants, je crois qu'il y a des moments très forts. Et que s'attendre à ce que ce soit comme un bien matériel et que ça dure et que ce ne soit pas affecté par les événements et que l'amour va durer comme un bien matériel, ce n'est absolument pas mon expérience. L'expérience que j'ai, c'est que ça fluctue et qu'il y a des moments très forts, formidablement vécus. Et puis, il y a d'autres moments où ce sont des traversées de désert et c'est comme ça.
Quand nous guettons la côte l'île Maurice, nous trouvons qu'il est bien joli. Et la belle la plage, beaucoup cocotiers, et transé vini palais aller. Je dis à l'île Maurice un paradis, l'île Maurice un paradis. Quand nous guettons la côte l'île Maurice, et na belle la plage, beaucoup cocotiers. Mais quand nous rentendons dans ce ventre, côte ce ban petit peut vivre, là qui nous trouvait, qui était un véritable île Maurice.
Quand on regarde la côte de l'île Maurice, on la trouve bien jolie. Il y a des belles plages, beaucoup de cocotiers. Les étrangers viennent, ils veulent pas repartir. Ils disent « L'île Maurice est un paradis, l'île Maurice est un paradis ». Quand on regarde la côte de l'île Maurice, il y a des belles plages, beaucoup de cocotiers. Mais quand on rentre dans son ventre, où vivent ses enfants, on trouve la véritable île Maurice.
De dire que... La langue française répond à mon envie de poésie. C'est une langue pour moi qui est éminemment poétique, même si je lis beaucoup d'anglais, que j'adore le créole, que j'écoute beaucoup donc des chansons urdu, hindi, que je trouve très belles. Mais il y a eu quelque part un déclic, je pense, qui s'est fait mais très tôt dans la petite enfance, au moment de la lecture de des premiers livres, de l'apprentissage même de la lecture. Donc quand j'ai commencé à aller à l'école, j'ai appris à lire et en anglais et en français, mais mes premières ébauches d'écriture ont été directement en français. Donc j'avais le choix entre ces deux langues. À l'époque, le créole n'était pas encore écrit, c'était encore une langue très parlée, donc peut-être que c'est pour ça aussi que je n'ai pas opté dès le début pour le créole. Mais vraiment, je crois que la musique du français est quelque chose qui... C'est comme ça que les mots me viennent tout de suite, de manière directe, c'est dans cette musique-là. Donc, même si je peux écrire en anglais, que je m'amuse quelquefois à traduire mes propres textes en anglais, que je lis beaucoup d'auteurs anglais, ça reste quand même donc ma première langue d'écriture, la langue du cœur, je crois, c'est le français.
La langue du cœur, c'est le français, c'est Ananda Devi dans cette archive qu'on entend. Carl de Souza, pour terminer cet entretien avec vous, à propos de votre roman « L'année des cyclones », il y a quelques mots en créole qui sont, j'allais dire qui traînent, mais c'est plus que ça, qui sont assez savamment placés dans ce texte-là. Est-ce que la langue du cœur, pour vous, ça a du sens de dire cela ?
Absolument, oui, et je suis ravi d'entendre les mots en créole. Je ne sais pas si c'était Ménoir qui disait...
Alors,
oui,
on a été très ennuyés pour être extrêmement...
Vous ne saviez pas quel était...
Transparent, on a fait des recherches. Oui. C'est extrait d'un documentaire qui est consacré à l'île Maurice. On a pensé à Chazal...
Qui parlait en créole?
Ouais.
Non,
le texte, je veux dire.
Le texte, Cambouguet l'île Maurice.
Ouais.
Ah non, je ne suis pas sûr. C'est possible. Mais en tout cas, peu importe l'auteur et celui qui prononce ces paroles de cette voix africaine, c'est exactement la position, notre position, celle de cette génération d'écrivains de mon époque, c'est de regarder beaucoup plus vers l'intérieur de l'île, vers le ventre de l'île où il se passe des choses fort intéressantes. Oui,
ouais.
C'est extrêmement intéressant. Alors qu'on a le cliché touristique des plages, etc. Je crois que c'est heureusement un peu dépassé. On peut trouver dans l'île Maurice des choses extrêmement intéressantes de coexistence, de problèmes, de difficultés qu'on connaît aussi maintenant avec les nouvelles migrations en France et ailleurs. Oui, ceci pour la situation. Maintenant, la langue, il se trouve que j'ai vécu dans une famille qui était à la fois francophone et créolophone, très francophone du côté de ma mère, aussi de mon père, mais on avait recours au créole pour toujours les moments d'intimité, pour les blagues, pour les moments d'émotion. Et ce rapport avec ces deux langues était assez complexe. Aujourd'hui, je suis convaincu que le rapport à une langue, vous parliez d'histoire d'amour, certainement une histoire d'amour, ce sont grâce à des personnes qui, pour qui j'ai des liens d'affection, que je me reconnais dans une langue davantage. Et bien entendu, pour l'anglais qui restait la langue des livres, la langue des études, aussi, j'ai rencontré des gens qui m'ont présenté les premiers romans en anglais, qui, à cause de l'amitié qu'ils me témoignaient, m'ont ouvert le passage vers l'anglais davantage que les cours, la grammaire qu'on nous enseignait au collège.
Donc, des questions d'être, en fait. C'est en fonction des êtres que vous avez trouvés sur votre chemin
toujours,
que vous avez...
Toujours. C'est toujours très, très affectif. C'est toujours par des liens d'affection. Et je crois que ne pas le reconnaître serait faire une grosse erreur pédagogique pour l'apprentissage des langues. C'est toujours reconnaître à travers une langue plus que la structure grammaticale et la nécessité économique, je crois.
Merci beaucoup, Carl de Souza. L'année des cyclones est parue aux éditions de l'Olivier.
Dans la page, il est d'un moli goût. Pas manger moins caram, au même papa Tobiti. Mon passe dans la base, aïe, dit le d'un moli goût. Pas manger moins caram, au même papa Tobiti. En guise de son violon, c'est vrai ce dé.
Au son ce soir, Anthony Thomasson à la réalisation, Lise-Marie Barré. Jeanne Aléos, Romain de Bac de Lièvre, Oriane Delacroix m'aident à penser cette émission. Vous pouvez la réécouter quand vous voulez sur franceculture.fr et encore plus quand vous voulez en vous abonnant au podcast. À demain. Y'a moi qui t'y cuit d'un bouloir, y'a moi qui t'y cuit d'un bouloir, avec ton maman qui t'y cuit d'un bouloir, adieu moi qui t'y cuit d'un bouloir, aïe, y'a moi qui t'y cuit d'un bouloir, y'a moi qui t'y cuit d'un bouloir, avec ton maman qui t'y cuit d'un bouloir. Zip madame serré, littéralement serré, ça vaut madame Berry, une batte qui vendée. Zip madame serré, tellement serré, ça pour madame Berry, moi j'ai fait une patte du Vendée. Et y'a moi qui t'y cuit d'un bouloir, y'a moi qui t'y cuit d'un bouloir, y'a moi qui t'y cuit d'un bouloir, avec ton maman qui t'y cuit d'un bouloir, ah y'a moi qui t'y cuit d'un bouloir, aïe, mais y'a moi qui t'y cuit d'un bouloir.